Nous sommes avec Christophe Arleston au Festival de la bande dessinée d'Angoulême. Bonjour.
Bonjour.
On va parler un petit peu de l'ambiance du festival cette année. Pour vous, vous êtes quand même un habitué. Est-ce que ça change un peu? Est-ce que c'est toujours pareil? On est dans des pantoufles et en même temps, on court partout.
Le festival d'Angoulême, c'est un petit peu le jour de la marmotte, le jour sans fin, c'est-à-dire que chaque année, on se réveille, il n'y a pas I've Got You Babe, mais on a l'impression d'être au même endroit. En plus, depuis 20 ans, je dors dans la même chambre d'hôtel, qui a été refaite plusieurs fois, mais c'est toujours la même, avec la même fenêtre, la même vue, le même festival, les mêmes bulles, et il arrive parfois qu'on se demande pourquoi on vient. Bon, heureusement, les bouquins ne sont pas les mêmes, on a des nouveaux bouquins à présenter, on a des nouveaux lecteurs à rencontrer, et heureusement qu'ils sont là.
Et donc là, on va plus précisément parler de Sangré qui a sorti son deuxième opus chez Soleil. Qu'est-ce que ça fait de présenter une héroïne qui est méchante et de la rendre sympathique ?
Sangre n'est pas méchante. C'est une enfant qui a subi un traumatisme très violent et qui a décidé de se venger. Moi, c'est la première fois que j'aborde le thème de la vengeance dans mes bouquins. Je me suis aperçu qu'en 170 bouquins aujourd'hui, je n'avais jamais fait de personnage qui cherche à se venger. Comme quoi, je ne suis pas d'une nature très vindicative. Et j'avais envie de me poser cette question de comment fonctionne la vengeance et quelle est la psychologie de la vengeance. Donc, j'ai vraiment voulu poser un personnage, le marquer de façon très très dure au départ. Elle a un certain nombre de méchants à retrouver, de qui elle va se venger cruellement. Mais en même temps, ce qui m'intéresse, je veux pas faire Kill Bill. C'est pas juste, j'en trouve un, je le bute. Je veux faire évoluer mon personnage et lui faire avoir une réflexion sur ce que c'est que la vengeance et la violence, petit à petit. Évidemment, là, on est dans les deux premiers mouvements, c'est quelque chose qui va se dessiner plus globalement. Mais je ne veux pas qu'on dise que Sangré est méchante. Elle n'est pas méchante. Elle est très marquée. Elle a cette cruauté que peuvent avoir les enfants, justement. Mais son évolution va l'amener à une réflexion sur la violence qui signifiera pas forcément qu'elle renonce à sa vengeance. Mais elle va évoluer.
C'est vrai qu'il faut reconnaître qu'elle évolue même déjà, même si on en est qu'au deuxième tome, elle évolue déjà dans ce second tome. Je disais méchante parce que c'est vrai qu'elle se pose pas de questions, quoi. Quand elle a accompli son but, elle y va, même s'il y a peut-être quelque chose qui lui dit que bon, c'est agressif, c'est gênant de le faire. Elle le fait, quoi. Elle s'arrête pas à la morale, on va dire.
Sangre est un personnage qui n'a pas une morale située sur le même plan que le nôtre, mais une morale qui lui vient de son histoire, qui vient aussi des cultures dans lesquelles elle a grandi. Mais justement, ce qui m'intéresse, c'est partant de ce manque de morale, au sens d'éthique plutôt que de morale, je préfère le mot éthique, voir comment est-ce qu'elle va évoluer vers un type d'éthique qui, et c'est là que j'en viens au propos qui, moi, m'intéresse, peut être une éthique universelle qui transcende les civilisations. Parce que je crois, alors on va se lancer dans des grands discours, mais moi je crois beaucoup qu'il y a une morale et une éthique au-delà de tous les systèmes civilisationnels et qu'il y a un respect de l'humain, une humanité qui doit exister et qu'en aucun cas une culture ne peut être le prétexte pour aller à l'encontre de certaines valeurs morales et éthiques. Voilà. Et ça, c'est pas ce que je vais chercher à démontrer, parce que je suis avant tout là pour raconter une histoire, pour divertir le public. Mais s'il y a un petit fond qui sous-tend l'histoire, ça va être celui-là.
D'où l'utilisation de méchants, d'assassins qui se trouvent dans différentes planètes et donc dans différents types de civilisations.
Le concept de la série, c'est qu'en effet, à chaque fois, elle doit retrouver un méchant dans une civilisation différente, sur une planète différente, et utiliser, ça c'est le challenge que je me donne en tant que scénariste, utiliser les ressorts de cette civilisation pour arriver à atteindre son but. Alors, ça se voit un peu moins dans le premier album, parce que c'est une mise en place, évidemment, où il faut poser les choses, dans le deuxième album, avec cette histoire de gens qui sont obligés d'avoir recours aux arts pour se défendre contre des monstres qui sont là, et seul l'art est une parade, et évidemment, le grand méchant est en même temps l'artiste le plus doué qu'on ait connu. C'est vraiment une situation qui m'a intéressé et maintenant je suis en train de me creuser le crâne pour savoir ce que je vais trouver de mieux pour le tome 3.
Donc vous n'avez pas encore établi toutes vos civilisations?
J'ai établi les contextes dans lesquels ils évoluent. J'ai pas mal de données sur chaque monde et sur chaque civilisation. Je n'ai pas encore la trame et le déroulement de l'histoire.
Et vous aviez besoin de parler de vengeance, donc de quelque chose de très dur, pour nous amener à une réflexion sur quelque chose de très pacifique, cette communauté que vous disiez sur l'humanité, l'échange entre les hommes.
Bien sûr, puisque malheureusement, de tout temps, la violence a été quelque chose de très prégnant dans les rapports humains. Alors, il y a eu des temps au moment où les Cro-Magnons et les Néandertaliens se sont croisés, contrairement à ce qu'on a cru pendant très longtemps, ils ne se sont pas foutus sur la gueule et au contraire, ils ont très vite fraternisé et se sont vite mélangés. Mais par contre, dès le début de l'âge du bronze après, l'histoire ne retient que des guerres incessantes. Donc on est obligé de partir de cette situation de violence pour essayer justement d'aller vers un mieux ensuite.
Pour en revenir à la construction de la série, comment s'est fait le choix de votre dessinateur ?
La série s'est construite dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'avec Adrien, on voulait faire un deuxième projet. J'avais cette histoire-là qui me traînait en tête depuis un moment, qui était une histoire qui se passait dans un contexte historique à l'époque. Sangre démarrait juste avant la Révolution française, se passait sur une vingtaine d'années, entre grosso modo 1789 et 1810, 1815, je pouvais tirer jusqu'à la fin de l'Empire, peut-être un peu la Restauration. Et j'avais prévu des tas de décors différents. Il y avait un épisode en Italie, qui est d'ailleurs celui-là qu'on vient de voir, qui était une Italie transposée. Il y avait un épisode dans les îles, du côté de la Guadeloupe ou de la Martinique. Il y avait un épisode plus vers l'Asie. Et j'avais prévu comme ça d'avoir mes méchants qui étaient des nobles de l'Ancien Régime, qui donc avaient eu toutes les raisons de se tirer dans les quatre coins du monde. Bon, finalement, Adrien a commencé à faire des recherches dans ce sens-là. Il a renoncé devant le boulot de doc historique et la peur qu'il a eue, parce que c'est vrai que dès qu'on est dans l'historique, et surtout dans la période napoléonienne, il y a toujours un cinglé pour dire « Il n'était pas là, le bouton, il était juste à côté, sur l'autre épaulette, et puis là, la barrette fait 2 mm de trop. » Et là, il s'est dit « Non, je vais pas, j'ai pas envie de me plonger dans une recherche de doc comme ça, on va le faire dans de la fantaisie. »
Et du coup, ça vous a donné des nouvelles idées, je suppose. Cette absence de contraintes historiques pour le dessinateur vous a-t-elle donné de nouvelles libertés en tant que scénariste ?
Disons que je retrouve mes mondes de fantaisie, c'est-à-dire le côté c'est open bar, je fais ce que je veux, mais en même temps, du coup, faut que je construise tout. La différence, c'est que la fantaisie, c'est pas n'importe quoi, c'est des mondes dont il faut construire l'histoire et la géographie à chaque fois. Et là, pour une fois, j'avais envie de me reposer sur une histoire et une géographie que je connais bien. Non, il a fallu repartir au boulot et recommencer par fabriquer la doc imaginaire avant de développer.
Ça vous donne envie de faire des ajouts à la bande dessinée en mettant, je ne dis pas des carnets, mais des vraies cartes ou des faux paysages que vous auriez pu faire pour vos propres recherches ?
Oui, c'est le genre de choses qu'on propose de temps en temps dans les petits cahiers graphiques supplémentaires, mais pour le moment, c'est pas à l'ordre du jour d'ensemble. Je l'ai fait dans le monde de Troyes, j'ai fait des encyclopédies, des cartes, des textes complètement délirants sur des tas de choses, je me suis beaucoup amusé avec ça. Pour le moment, pour Sangre, il est un petit peu tôt.
On reste un peu plus soft au niveau de l'humour dans Sangre que dans tout ce qu'il y avait pour le monde de Troyes. Est-ce que vous allez rester sur cette ligne-là ou rajouter un peu plus de blagues ? Il y en a quelques-unes, hein. Rajouter un peu plus de blagues ou ne pas en mettre pour les prochaines ?
L'humour dans Sangre, il y en a un tout petit peu, il reste très ténu parce que le sujet est quand même dur et je veux montrer un personnage traumatisé et très violent. Donc si je commence à faire Zimboum Poète toutes les trois cases, ça va tout désamorcer et ça marchera pas. Alors de temps en temps, il peut y avoir un petit truc amusant, un petit clin d'œil. Là, je me suis amusé à un moment donné, elle veut pas lâcher une chambre dans une auberge et on voit l'aubergiste que ça emmerde parce que ça crée du trouble dans son auberge. Je le traite en petit clin d'œil, mais il n'y aura pas vraiment d'humour dans Sangre parce que c'est pas le lieu et que pour l'humour, j'ai les trolls, j'ai Echo, j'ai l'enfeust et chaque chose à sa place. Et ça décrédibiliserait le récit et les personnages. Donc non, Sangre ne sera pas drôle.
Est-ce que on a pu vous faire des remarques, est-ce que le public là que vous avez rencontré a pu vous faire des remarques qui vous ont surprise sur Sangre?
Assez peu. Il y a eu quelques remarques qui m'ont gêné parfois de certains lecteurs qui justement aimaient un peu trop à mon goût le côté sanglant, violent de la vengeance. Et là, je me dis, bon, vivement qu'on avance dans les tomes, qu'ils arrivent à comprendre justement que j'ai envie de démonter ça et non pas de l'appuyer. Il y en a qui prenaient un peu trop le premier degré que, ah oui, elle les torture, c'est vachement bien. Non, c'est pas vachement bien qu'elle les torture. Là, elle s'en rend pas encore compte, mais à un moment donné, elle va s'en rendre compte. Voilà. Des fois, il y a des lecteurs, mais justement, j'espère comme ça peut-être amener à un cheminement et à une réflexion.
Au niveau de l'actualité bande dessinée, est-ce que vous auriez quelque chose à nous conseiller ?
Alors, j'ai à vous conseiller deux tueries graphiques qui sont les deux plus beaux bouquins que j'ai vus depuis très très longtemps. C'est deux copains, ça n'a rien à voir. L'un des deux, je ne l'ai pas encore lu, donc je ne peux même pas parler du scénario. C'est le bouquin de Steve Cusor et Yves Sante. Il y a d'ailleurs une expo, là, à Angoulême, avec des planches. Les noirs et blancs de Steve sont à tomber, c'est d'une beauté sublime. Et l'autre, c'est Dominique Bertaille, Mondo Reverso, chez Fluide, où là, l'idée est fabuleuse, c'est de faire un western, un vrai western, sauf que tous les rôles féminins sont tenus par des hommes et tous les rôles masculins sont tenus par des femmes. Et comme lui aussi, c'est un dieu graphique, Doom et Dominique Bertaille, c'est vraiment un album extraordinaire.
Sur quoi travaillez-vous en ce moment ?
Tout. Je travaille sur tout à la fois. En fait, je suis en train de bien avancer le prochain Naufragé d'Ithac avec Adrien, puisqu'on a, on met sans grand pause le temps de refaire un Naufragé d'Ithac. En même temps, je suis sur le prochain Écho avec Alessandro Barbucci, donc qui lui se passe à nouveau à New York. Je suis également sur le prochain Elfe Noir, puisque sous pseudonyme je fais la série des Elfes Noirs. Et je dois attaquer, dès le retour d'Angoulême, le prochain Lanfeuse qu'on va commencer. Le prochain Opal qu'on va commencer, et j'oubliais, oui, on est sur le Troll aussi en même temps. Donc voilà, je fais tout ça, généralement, je travaille deux jours sur l'un, trois jours sur l'autre, je reviens, et ainsi de suite.
Et vous nous disiez qu'Angoulême, c'était un peu tout le temps la même chose avec autant de projets. Je veux dire, vous avez énormément de projets, comment vous faites pour les mener de front? Vous avez une segmentation bien précise à chaque fois, ou vous travaillez vraiment sur tout en même temps?
Je travaille surtout en même temps, dans la même semaine, je peux travailler sur 3-4 séries différentes. Mais c'est très très facile, je connais mes personnages. Moi je travaille l'humain, les personnages. Je connais mes personnages, au total j'ai 50-60 personnages. On connaît tous, chacun de nous connaît tous 60 personnes, on les mélange pas, on sait qui c'est, ils ont leur individualité, leur personnalité, on les connaît bien, on les aime comme ils sont, on les aime pas comme ils sont. Donc voilà. C'est ça, moi j'ai mes personnages, tous ces amis imaginaires qui cohabitent dans ma tête. Et dès que je me remets sur un scénario, je reviens avec mes personnages. Et dès que je suis avec eux, avec leur psychologie, le décor suit, tout le reste va et je peux pas me mélanger, quoi.
On vous propose 5 objets, vous en prenez un parmi les 5. Vous pouvez choisir les lunettes de Clark Kent, le panier du petit chaperon rouge, les chaussures de Marty McFly, le violon de Sherlock Holmes ou le chapeau de Indiana Jones, vous prenez quoi ?
Très dur le choix, très très dur. Bon, les chaussures de Marty, non. La DeLorean, à la limite, j'aurais pu, mais pas les chaussures. Le chapeau d'Indiana Jones, c'est extrêmement tentant, mais j'ai peur qu'il y ait un peu trop de sueur dedans. Il a l'air de puer un peu. Donc je crois que je vais prendre le violon de Jeremy Brett, parce qu'au moins avec ça, je sais que moi aussi je vais pouvoir me défendre. Le violon est une arme terrifiante qui arrive à repousser les gens à plusieurs dizaines de mètres autour de toi. Donc si jamais il y a des fâcheux et des emmerdeurs, au moins avec un violon, je pourrais faire du dégât.
Un mot que vous souhaiteriez ajouter ?
Merci.